France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Juliette Navis. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons les kilomètres de Dorothée de Kuhn. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir et toute cette semaine à Kyoto, au Japon, pour nous faire découvrir la villa Kujoyama, lieu de résidence pour les artistes français. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Juliette Navis.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que vous êtes jusqu'au 7 avril, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette semaine, sur scène à la MC 93 de Bobigny dans une pièce pour les vivantes et les vivants en temps d'extinction de David Gelson, d'après Katie Mitchell et Miranda Rose Hall, ce qui me donne l'occasion de vous recevoir pour parler de cette actualité, mais plus largement de votre travail de comédienne, mais aussi évoquer d'autres facettes de votre pratique puisque vous êtes autrice et metteuse en scène. J'ai reçu il y a pas si longtemps Laure Matisse, alors qu'elle jouait Céline, une pièce que vous avez écrite et mise en scène, deuxième volet d'une trilogie en cours. On va parler de tout cela et revenir sur des moments importants de votre parcours. Mais première question, évidemment, pourquoi le théâtre? Est-ce que ce sont des lectures? Est-ce que c'est un ou une professeure de français? Une représentation marquante? Une histoire d'amour?
Alors, je pense que mon premier souvenir de théâtre, c'est à Marrakech, parce que j'ai vécu quelques années à Marrakech. J'étais à l'école française. Et ma sœur aînée, une de mes deux sœurs, Sophie, prenait des cours de théâtre avec, je pense, son professeur de français, Lucien Espy. Et ils avaient, ils répétaient une pièce que je suis allée voir. Et c'est mon premier souvenir de théâtre. Et je pense que j'étais...
Vous avez quel âge?
Oh là là, je pense que j'avais, 8 ans peut-être. Mmh. Et j'étais fascinée devant ma grande sœur, évidemment, mais aussi, devant la joie qu'elle avait. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, quoi, de faire cet atelier, de travailler avec Lucien, et voilà. Et donc, je pense que ça a dû créer un premier réveil de désir en moi.
Et la suite, c'est quoi alors?
La suite, je pense que moi, j'ai fait pas mal de piano. On faisait pas mal de musique à la maison. Et ma mère avait vraiment quand même bien envie que j'en fasse mon métier, que je devienne pianiste. Il y avait de bons retours des professeurs, enfin, dans ce sens-là. Et c'est vrai que la contrainte que ça... Je devais passer des heures devant mon piano, je pouvais pas aller en vacances à certains endroits parce qu'il fallait toujours qu'il y ait un piano pas loin. Et il y avait quelque chose de l'ordre de... Je pense qu'il y avait une grosse pression aussi. Et de l'ordre de l'enfermement, et je pense que la découverte d'un plateau de théâtre a été vraiment synonyme de liberté pour moi, de la découverte de nouveaux possibles. J'avais l'impression qu'on pouvait tout faire sur un plateau. Et ça m'a vraiment donné, très envie, quoi, de continuer dans cette voie-là.
Alors, j'ai vu qu'effectivement, pendant que vous étiez au Conservatoire National de Musique à Lyon pour étudier le piano, parallèlement, vous étiez aussi au Théâtre de la Seine-sur-Saône, à Lyon. Puis après, il y aura un an au studio d'Asnières, bien réputé. Puis, vous tentez et réussissez le concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où vous ferez des spectacles dirigés notamment par Daniel Mesguich, Muriel Mayette ou Philippe Adrien, mais sans leur faire offense. Juliette Navis, la rencontre marquante, c'est quand même celle avec le metteur en scène hongrois Arpad Schilling, que vous rencontrez lors de votre dernière année au conservatoire. Il n'a que quelques années de plus que vous, en fait, mais ça va être quand même une sorte de figure de mentor très important. Quel premier souvenir de travail vous avez avec Arpad Schilling?
Quand on a rencontré... attendez, je réfléchis, le bon ordre. Je ne sais pas si j'avais... Non, je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'était au conservatoire, donc il animait un atelier avec ma classe, et on a travaillé sur Hamlet, et on a fait une étude dramaturgique d'Hamlet pendant 15 jours, à la table, Il y avait un traducteur, il parlait pas français, et, donc, et on prenait tous des notes. Mais en même temps, en parallèle, je pense, il montrait Hamlet à la MC93, justement. Et c'est une grande histoire, la MC93, entre Harpeth Schilling et moi et nous, parce que je vais trop vite. Mais pour terminer cette histoire-là, donc il nous a fait l'analyse pendant 15 jours du texte, ensuite il est parti. Il est allé travailler avec des élèves de Budapest et il nous a dit « Je pars 15 jours, faites tout ce que vous voulez. Présentez le nombre de scènes que vous voulez à partir d'un mot, d'une phrase. Vous n'êtes pas obligé de respecter le texte. Vous pouvez inventer, vous pouvez ou juste jouer une scène. » Et donc, il nous a laissés seuls après nous avoir fait cette très profonde analyse du texte. Et ça a été c'était marrant comme première rencontre avec un metteur en scène, comme façon de travailler, quoi. Mais c'était le début de son apprentissage de l'autonomie quelque part, parce que avec lui on n'est pas acteur faiseur, on est vraiment acteur créateur. Et donc voilà. Et
pourquoi vous souvenez de ce que vous avez fait avec cette Hamlet, vous?
Ah là là, j'en ai plein. Il est revenu, mais il y avait 3 heures de spectacle. Ah oui. Tellement il y avait de propositions. Je me souviens, mais il y en a. J'avais fait une proposition sur être ou ne pas être.
Carrément.
Et qui était restée dans la version finale qu'on a présentée en atelier, notamment. Mais
alors, Harpeth Schilling, il a presque jamais donné d'entretien à la radio, mais Anouk Minaudier, qui a préparé cette émission avec moi, a réussi à retrouver une interview alors très particulière, puisqu'on est le 27 octobre 2001. C'est dans le cadre très spécifique d'une émission spéciale sur France Culture qui était consacrée à l'après 11 septembre 2001. On va écouter ce court extrait avec Harpeth Schilling.
Je m'occupe du théâtre. Et mon idée fixe, c'est que dans la guerre, la première chose qui meurt, c'est le théâtre.
Ugyanis azt gondolom, hogy a színháznak, amivel én foglalkozom,
le théâtre que je fais, le théâtre dont je m'occupe, son but, c'est que il fasse bouger les gens. Qu'il fasse bouger des gens d'une certaine bêtise. Les gens sont persuadés de quelque chose.
Az emberek meg vannak győződve valamiről.
Et d'être persuadé de quelque chose,
az a meggyőződésük egy nyugalmat ad nekik.
Ça leur procure un certain calme.
Tehát én nyugodt emberek.
Moi je fais du théâtre pour des gens tranquilles et calmes.
Hogy egy feszültséget keltsünk.
Pour créer une certaine tension.
Amikor mindenki fél és mindenki feszült, akkor
quand tout le monde a peur et quand tout le monde est sous tension, le théâtre que je fais ne peut plus rien faire.
Tehát a háborúban
pendant la guerre, on n'a pas besoin de théâtre.
Rám van szüksége, és az én színházamra.
Les gens qui ont peur, ils n'ont pas besoin de moi et de mon théâtre.
Most még gondolkodhatunk.
Étonnant, ces propos d'Harpeth Schilling. Bon, alors je rappelle, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, mais sur la place du théâtre dans notre monde, on va en reparler aussi avec votre actualité, Juliette Navis, mais de quelle façon est-ce que ces propos-là, déjà d'entendre cette voix-là, ça résonne avec ce que vous avez appris auprès de lui, ce qui vous a importé dans ce compagnonnage qui aura duré plusieurs années, puisque vous avez travaillé avec lui longuement.
Oui, 6-8 ans, je pense. Harpeth Schilling, c'est vraiment un mentor pour moi. Ça a été vraiment un guide, quoi. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas l'artiste, mais en même temps tout se mêle. Mais si j'avais pas rencontré Harpeth Schilling, vraiment, il m'accompagne encore aujourd'hui dans mon métier de metteuse en scène, aussi d'actrice, mais je joue quand même un peu moins. Et c'est vrai que entendre sa voix là, ça, c'est hyper émouvant parce qu'il m'accompagne d'une autre manière évidemment maintenant. Je ne l'entends plus, mais qu'est-ce que je l'ai entendu. et je l'ai toujours entendu en hongrois en plus parce que il parle pas français. Enfin aujourd'hui peut-être plus parce qu'il habite en France maintenant. Mais oui, c'est quelqu'un de très très important pour moi et je pense qui est très important même. Enfin, je pense qu'il a vraiment un regard sur l'art et sur sa pratique qui est très forte et très importante en soi. Et c'est marrant parce que il y a une phrase, enfin, il y a beaucoup de phrases qu'il a dites qui me restent. Et il y en a une en particulier que je répète souvent aux acteurs avec qui je travaille. C'est un jour, il a dit, il faut essayer de faire exploser des petites bombes dans la tête des spectateurs. C'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire. De les, voilà, pour, après, on peut l'interpréter comme on veut, mais pour moi, c'était voilà, les surprendre, les déplacer, les étonner. Et donc, ça résonne très fort avec ce qu'on vient d'entendre, évidemment.
Il faut un public calme.
Il faut un public, voilà, sinon, effectivement, ça résonnera pas.
On n'a pas besoin de son théâtre pendant la guerre, mais on en a besoin. Bon, la question de la guerre, elle prend différents visages. Mais en tout cas, vous avez donc collaboré, oui, 6-8 ans avec, aux créations d'Arpad Schilling. Alors, du coup, vous étiez au plus près de sa pratique, de l'écriture du plateau, hein, ainsi appelé, ce processus créatif qui implique pleinement toutes celles et ceux qui y participent. Et c'est quelque chose qui fait pleinement partie de vous depuis de votre travail. Et en même temps que ces années de collaboration avec Arpad Schilling, il y a votre implication au sein de La Vie Brève, hein, ce collectif dont on a souvent parlé dans cette émission, avec différents membres, un collectif mouvant dans la figure de Proulx et Jeanne Candel, avec qui vous étiez au conservatoire, qui elle aussi, à sa façon, a voulu appliquer les méthodes d'Arpad Schilling. Avec La Vie Brève, Juliette Navis, vous avez joué dans Robert Planquette, pièce qui parle du deuil. Comment dire, qu'est-ce qu'on fait de cette perte, et un thème qu'on va retrouver dans votre spectacle Céline. Il y a aussi le spectacle itinérant Nous brûlons à Villeréal, et puis Le goût des autres et Le goût du faux et autres chansons, non pas Le goût des autres. Avant de parler de ce moment de votre vie d'artistique, justement, on va écouter Jeanne Candel dans L'humeur vagabonde. C'était au moment de la présentation de Robert Planquette en 2012 au Théâtre des Abbesses.
Le spectacle, on l'a répété sur 6 mois, en fait, donc dans des périodes de travail très précises, ce qui a permis, en fait, à chacun d'entre nous de laisser infuser les choses, parce qu'il y avait des pauses, en fait, et on pouvait vraiment laisser reposer comme une pâte, un peu. Et moi, ça me permettait aussi de réécrire entre les sessions de répétition. Et ça, je pense que ça a vraiment participé à l'objet final, en fait, cette manière d'écrire comme ça. Pour moi, on continue dans ma tête, mais pour eux aussi, voilà, de laisser reposer, de prendre de l'air, de prendre de la distance. Donc ça a été assez important.
La notion du temps, le temps qu'il faut, le temps, c'est quelque chose que vous avez retrouvé ensuite en tant qu'autrice et metteuse en scène, et on va en parler davantage, mais c'est quelque chose d'important, ça.
Ah oui, mais je vais vous dire, hein, moi je pense même dans la vie en général.
On est d'accord.
C'est important de prendre le temps, d'avoir le temps, de se donner ce temps-là, on l'a pas, on l'a de moins en moins, on est toujours à courir, à devoir faire, en fait, et à être efficace, et c'est quand même très dommage. Et c'est vrai que ce que dit Jeanne sur le dépôt que peut se créer quand on prend du temps à faire quelque chose, et une pièce de théâtre, enfin, quelque part au cinéma, il y a peut-être plus, c'est très différent, les temps de fabrication sont différents, mais il faut combien d'années pour faire un film, combien d'années pour l'écrire, pour le peaufiner, ensuite. Et je pense que le théâtre nécessite aussi du temps, enfin, créer une œuvre, un projet, ça nécessite du temps pour créer des couches, pour créer de la résonance, c'est important. Voilà. Mais moi, je fonctionne comme ça dans mes créations. Oui.
Alors, on ne va pas spécialement parler de cinéma aujourd'hui, on va rester concentré sur le théâtre, mais pour autant, vous avez réalisé court-métrage, documentaire, l'envie de réalisation est toujours là, Juliette Navis ?
Ben, je ne sais pas. C'est, en fait, il faut plonger, quoi. Il faut plonger. Et on ne peut pas plonger partout. Pas en même temps, en tout cas. Pour l'instant, je plonge dans le théâtre, vraiment, en tout cas dans la mise en scène. Et c'est vraiment un très beau plongeon, mais je n'ai pas fini.
Ouais, je suis en cours. On attend la suite. Bah, d'ailleurs, on en parle dans un instant, mais avant de poursuivre, on va s'arrêter sur votre choix musical qui s'est porté sur Popular de Mia. Ça nous fera un enchaînement, on va voir pourquoi. Mais pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Alors, j'ai d'abord choisi cette chanteuse, j'avoue, parce que c'est une artiste que j'aime énormément depuis longtemps. J'aime sa musique et j'aime le côté, la multitude de genres qu'elle a musicaux, et aussi son engagement très fort politique. Et puis j'ai choisi ce titre. Bon, après, elle est aussi Sri Lankaise. Je suis, moi, d'origine, enfin, mon père est indien, et donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de ça qui me parle. Et le titre, parce que la question de la mise en avant de soi, de la mise en vitrine ça fait partie, je pense, de ma trilogie, des thématiques que j'aborde dans la trilogie que je mets en scène en ce moment.
Et dont on parle juste après avoir écouté Mia.
Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. Love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. I got the best sweets, I got the best sheet, I got the best seats, best shoes on my feet, bitches on my body, cause it's stampede. If you cut me, success, I bleed.
Popula, Lamia, on attend le nouveau disque, hein, Juliette Navis.
Exactement,
ça tarde avec impatience. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça nous amène tout naturellement à cette trilogie que vous évoquiez, dont on connaît, nous, spectateurs, spectatrices, pour leurs deux volets, JC et Céline. On parlait de vos années dans la vie brève, il faut dire qu'en 2016, vous avez créé avec le collectif le spectacle La timidité des arbres, en collaboration avec Romain Guillon, une pièce pour quatre acteurs, dont Laure Matisse, qui sera plus tard votre Céline. La même année, vous avez créé Regem en scène avec Douglas Grauwels. Là, on est en danse-théâtre. Et c'est lui qui sera, qui a été votre JC, qui sera. Hein. Ça peut se jouer très longtemps.
Ah ben oui.
C'est quoi le point de départ, en fait? Est-ce que vous savez, vous, qu'il y aura trilogie, ou est-ce qu'au départ, il y a un projet qui est JC, que vous allez nous
expliquer? Bah, moi, comme principe, le point de départ, c'est toujours la famille. Hein, donc, le point de départ de JC, c'est mon frère, Grégory. Qui me montre des vidéos de Jean-Claude Van Damme. Et moi, je découvre Jean-Claude Van Damme dans ces vidéos-là, voilà, qui, ben, on se moque hein, quand même.
Qui parle ou qui joue?
Qui parle, ouais. De Jean-Claude Van Damme.
Des interviews.
Oui, des interviews où il fait ses digressions interminables, très improbables. Mmh. Et je me dis, mais là, c'est un clown, c'est un personnage. C'est vraiment, il faut en faire un personnage. Et donc, j'ai voulu, voilà, je me suis dit, on va faire un projet avec un personnage inspiré de la figure de Jean-Claude Van Damme, et on va travailler sur des sujets proches de notre vie, quoi, de notre et donc au début j'étais plus partie sur des sujets écologiques, et puis j'ai discuté de tout ça avec Douglas Grauwels, donc qui est à l'époque il avait jamais joué,
il était danseur,
et ouais, il avait fait de la danse, il avait fait une école de cinéma à Bruxelles, et puis il faisait surtout de la dramaturgie. Et il avait rencontré Jeanne Candel et il était assistant dramaturge sur Le Goût du Faux, justement. Le Goût du Faux et autres chansons. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et mais il était très drôle. Et je me suis dit, mais non, mais il faut le mettre sur un plateau, lui. Et donc, et en plus, je pense qu'il attendait que ça. Il était ravi. Et donc, on a commencé d'abord dans mon salon, hein, mais à répéter ce... Et en fait, il se trouve que lui, il suivait des cours d'économie avec un économiste belge qui s'appelle Bernard Lietard. Et on est parti sur un de ses ouvrages...
Au cœur de la monnaie.
Exactement, voilà. Et donc, on est parti sur notre rapport à l'argent. Et comment il s'est construit dans notre inconscient collectif. Et avec ce livre-là, cette base-là, on a créé JC en plusieurs années. On a mis le temps.
Plusieurs versions aussi.
Ouais, ben oui, parce que le temps. Parce que le temps. Et la dernière version, elle a été vraiment peaufinée. Ouais, c'était après qu'on ait présenté le spectacle à Avignon. Donc, mais c'est ça aussi qui est génial avec le temps et ce genre de formes qui sont une forme d'écriture particulière puisque c'est une écriture de plateau, c'est une écriture très vivante et très, donc du coup ça nous permet de redessiner un petit peu les lignes au fil du temps et le spectacle vit encore, hein, il revient la saison prochaine.
Bonne nouvelle.
En force.
Mais alors, comment passe-t-on de JC à Céline ?
Oui, eh ben, parce que pendant que je travaillais sur JC, et donc toutes ces thématiques autour de l'argent et donc de nos sociétés, enfin de profit, de croissance illimitée, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Collapse. Et où le nom de la personne qui est interviewée pendant ce film et qui parle de et qui dit à un moment mais en fait on rien ne croit de façon infinie sur Terre et c'est je veux dire c'est un mythe c'est impossible tout est c'est circulaire en fait on est on grandit on croit puis on décroît et puis on meurt et puis on renaît et tant qu'on ne l'acceptera pas et là je me suis dit ah mais bien sûr mais c'est ça le thème. En fait, je vais faire une trilogie. Parce que Bernard Lietard avait dit que l'argent était un des trois tabous de notre époque. Donc l'argent, la mort et la sexualité, c'était resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai...
C'est très freudien quand même aussi.
Oui, voilà. Et un peu, moi à l'époque, je me suis dit, bon, c'est un peu général, un peu basique. Un
mais
peu, bon.
Et, en même
et
temps...
En fait, c'était génial. Et du coup, je me suis dit, ce jour-là, donc on était encore en train de répéter JC, mais je me suis dit, en fait, je vais faire une trilogie, le deuxième volet, ça sera sur la mort. Et après, il fallait que je trouve la figure populaire.
Alors, Céline, c'est Céline Dion, et en même temps, c'est pas du tout Céline Dion, puisque c'est un personnage, hein, c'est un véhicule qui porte ce propos. Et Céline, elle a nous parlé donc de la mort, mais pour savoir quand même quelle autrice et directrice d'interprète vous êtes, une naviste, le mieux c'est quand même d'écouter Laure Matisse, que je recevais dans cette émission au mois de janvier dernier. Je lui ai demandé comment elle vivait la reprise de ce spectacle Céline qui allait avoir lieu quelques jours plus tard au 104.
On parlait tout à l'heure de comment reconvoquer, c'est sans fin, c'est un travail sans fin. Et je disais à Juliette avant-hier, j'ai l'impression, et pourtant j'ai l'impression que je sais, et elle me dit c'est normal, il faut refaire tout le cheminement. Il y a plusieurs parties dans le spectacle. Bon, je vais pas tout dévoiler non plus, mais j'ai des plots extrêmement précis, j'ai vraiment un slalom balisé mais j'ai des choses très particulières à chaque segment à reconvoquer et le début étant l'enjeu majeur en fait c'est l'entrée évidemment dans tous les sens du terme et c'est le plus primordial parce qu'une fois que je suis rentrée vraiment dans ce début et c'est le mot vraiment est vraiment le cœur du travail.
Ouais.
Et Juliette, ce qui est fabuleux, c'est que, et parce qu'elle me connaît, et parce qu'elle a cette acuité, ce regard dont parlait Dominique Valadier, elle ne me laisse rien passer dans le bon sens du terme. Je ne peux jamais tricher avec elle. Donc je conseille à toutes les actrices et les acteurs de travailler un jour avec Juliette Navis. Et parce qu'en plus, elle voit des choses qu'on ne voit pas soi-même. Puisque Juliette, elle a vraiment le propre de me faire faire des choses dont je lui dis d'abord « je ne le ferai pas » parce que je ne peux pas le faire. Elle me dit « si, tu peux le faire ». Et effectivement, elle a raison.
La preuve, vous le faites.
Je le fais. Mais non. Et mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, comme elle est comédienne et qu'elle a vécu beaucoup de moments difficiles où elle se sentait pas outillée. Parce qu'on n'est pas non plus des surhommes et des surfemmes quand on est acteur, même si on est très entraîné. En fait, elle nous donne des cadres de jeu très précis et des fonds et de la nourriture très forte qui font qu'on atteint une liberté que moi je trouve rarement avec d'autres metteuses en scène ou metteurs en scène. Mais elle nous laisse jamais dans le vide. Elle nous tout est extrêmement pensé. Et justement, c'est tout ça le cœur de son travail, c'est de cette pensée qui est extrêmement musclée, qui est c'est ça qu'il faut reconvoquer. Voilà, c'est pas les mots, c'est la pensée tout le temps.
Bon, il va falloir qu'on ouvre un standard pour toutes les comédiennes et comédiens qui vont vouloir jouer sous votre direction, chez Etnavis, après avoir entendu ce que disait Laure Mathis, qui à la fois vous faisait rire, à la fois vous faisait un petit peu rougir, on comprend bien, mais voilà, qui est précis quand même.
Oui.
Vous reconnaissez la metteuse en scène que vous êtes et l'autrice que vous êtes dans les propos de Laure Mathis.
Oui, bien sûr, oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est sûr que je les regarde, ben, je fais que ça, en fait, les regarder. Et parce que c'est comme ça que ça c'est comme ça que je trouve ma place déjà. Et moi je les aime profondément, je trouve qu'ils sont comme un espèce de prolongement de moi, enfin je sais pas, ils sont une partie, c'est comme s'ils étaient une partie de moi que je ne suis pas, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc j'essaye de les juste de les voilà de les ram... En fait, il y a quelque chose qu'elle dit là, Laure, qui est très très juste, c'est que on a peur quand on est sur scène. Un acteur, il a peur. Moi, je le pense profondément. Je crois pas qu'un acteur, il puisse se débrouiller tout seul. On sait plus rien de nous quand on est sur un plateau. On est aveuglé. Nos sensations sont aveuglées. Alors après, il y a la pratique qui fait qu'on arrive à se raccrocher, la technique aussi. Et moi, c'est ça. J'essaie de les rassurer, de les regarder, de les emmener, de les guider, Ouais, la question de la réassurance, elle est très importante, je pense, dans le travail que j'essaie de leur donner un cadre qui soit vraiment où ils se sentent protégés. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'ils vont être le plus libres. Avec, évidemment, un énorme travail quand elle parle de la pensée, Laure, et de la précision. C'est sûr que c'est le premier outil que je leur donne, en fait. C'est une structure très, très, très forte. JC, c'est une théorie, quoi. C'est une théorie. Et Douglas, il doit surfer pendant 1h20. Il part et puis on se retrouve en bas, quoi. Et paf, il slalome d'un plot à l'autre comme ça. Et il doit connaître son parcours par cœur, quoi. Mmh. Et donc ce qu'on répète, c'est ça. C'est le parcours des plots.
Mais là, j'en connais une autre qui en ce moment vit ça. C'est vous. On en parle dans un instant, quand même, parce que vous avez un sacré parcours aussi à accomplir.
Mais il y a un texte. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même vertige, je pense. Il y en a un aussi, évidemment.
Mais le vertige va se poursuivre. Qui dit trilogie dit troisième volet.
Oui.
Alors, Laure Mathis nous a peut-être donné quelques tout petits indices quand elle est venue. Mais là, j'ai vu dans certains documents à peu près officiels qu'il y a un titre.
Ouais.
Pedro.
Ouais.
Et Pedro, on en connaît plein, mais...
C'est Pedro. Ce sera JC, Céline et Pedro, la trilogie.
Il viendrait de la Movida, ce Pedro-là ?
Oui, tout à fait.
Vous en êtes où, du travail ?
On a fait une semaine de répétition pour l'instant, donc avec Douglas Groels et Laure Mathis, donc qui sont les deux acteurs de JC, Céline, qu'on retrouvera en duo sur Pedro. La création est prévue plutôt à l'automne 26. Et on a encore 2 semaines là à venir avec Romain Guillon, que vous citiez tout à l'heure, qui est donc un chorégraphe que j'ai rencontré au Ballet C de la Baie il y a quelques années à Gand, avec Douglas d'ailleurs. Et c'est à la suite de cette rencontre qu'on avait créé Regan Menzen, la pièce dont le nom a donné le nom à compagnie. Et donc voilà, donc
automne 26.
Ouais, c'est pas tout de suite, mais ça il se trouve que Laure Mathis part en bateau. Voilà.
C'est le titre d'un film.
Laure Mathis part en bateau, c'est le titre d'un film. C'est ça, et elle part 6 mois, et donc du coup, on fait. Mais c'est très bien parce que ça me donnera du temps.
Ça va déposer.
Merci.
Mais alors, pendant que Juliette Navis écrit et met en scène, que devient la comédienne Juliette Navis ? On a continué à vous voir un peu au théâtre, aussi à la télévision. On est quand même très heureux de vous retrouver sur scène à la MC 93 pour ce nouveau spectacle mis en scène par David Jezelson, une pièce pour les vivantes et les vivants en temps d'extinction. D'après Katie Mitchell et Miranda Rose Hall, on va expliquer plus clairement les choses dans un instant. Et avant cela, là encore, on va écouter David Jezelson, toujours dans cette émission.
Tout le monde est là, c'est génial.
C'est la famille. C'était il y a 3 ans, en mars 21. On était alors dans le 3e confinement lié à la pandémie de la Covid-19.
Que ça soit dans Route Kadish où on a l'espoir d'une terre promise, d'un avenir meilleur, que ça soit dans Dorine où on a l'espoir d'un amour sans ombre, sans nuage, sans maladie, que ça soit dans Le silence et la peur où on a l'espoir d'une liberté possible, effectivement, il y a cette idée-là et pour le coup, une des choses que j'ai un peu envie de ce fil-là que j'ai envie de tirer aujourd'hui, c'est quelle est l'utopie qu'on peut avoir aujourd'hui, là, comme société. Et je pense qu'on en a une géniale. Et je pense qu'en fait, cette pandémie et cette espèce d'horreur dans laquelle on est nous offre la possibilité, enfin, d'avoir une utopie commune au XXIe siècle, qui est l'écologie, qui est comment est-ce qu'on sauvegarde le vivant. C'est Baptiste Morisot qui dit ça, il dit « Nous sommes le vivant qui se défend ». Et tout d'un coup, je pense que l'humanité dans son entier, Homo sapiens, a une chose à trouver, c'est comment survivre. Et cette utopie-là, de la survie, pas seulement de soi, mais des espèces qui nous entourent, je pense que ça peut être la matière d'un travail à venir, évidemment artistique, mais pas seulement. Mais je pense que le spectacle vivant, en particulier, a la possibilité de se saisir de cette question, de l'utopie du vivant, de la sauvegarde du vivant dans les années à venir, parce que le spectacle vivant, les spectacles vivants, les structures qui accueillent le spectacle vivant, c'est des mini-sociétés, c'est des micro-sociétés dans lesquelles toutes les catégories sociales sont représentées. Dans un théâtre public, il y a des ouvriers, des techniciens, des auteurs. Et si à cet endroit-là, on commence à travailler à la mise en place de cette utopie, c'est peut-être pas mal.
Alors, 3 ans plus tard, David Jezelson a donc mis en pratique ses propos avec cette mise en scène, adaptation, traduction d'une pièce pour les vivantes et les vivants en temps d'extinction. Alors, il s'agit au départ d'un texte de l'autrice américaine Miranda Rose Hall, qui raconte rien moins que l'apparition de la vie sur Terre jusqu'à la 6e extinction de masse actuellement en cours. La metteuse en scène britannique Katie Mitchell a donc créé cette pièce en 2021 au théâtre de Vidy-Lausanne avec un protocole bien précis. Le spectacle ne voyagera pas mais pourra être joué partout dans le monde. Il devra être sombre, se jouera sans électricité. Il devra être interprété par une femme qui ne sera pas issue de la majorité visible de son pays. Il pourrait être recréé par d'autres artistes. Alors, Abominé, la MC 93, et Hortense Archambault ont invité David Jezelson à s'emparer de ce texte de Miranda Rose Hall et du cadre défini par Katie Mitchell pour inventer cette nouvelle version du spectacle qu'on peut voir donc jusqu'au 7 avril à la MC 93 à Bobigny. Alors, comment est-ce que vous avez procédé à partir de là, Juliette Navis? À quel moment vous entrez dans ce projet?
Alors, je sais pas. Pas exactement par rapport. En tout cas, c'était la saison dernière déjà que David m'a proposé donc de. Je sais pas depuis quand lui il avait. Donc assez rapidement, j'imagine. En tout cas, on a commencé les répétitions à partir du mois de septembre. On a commencé à plutôt travailler sur le texte. David a retraduit le texte de Miranda. Et j'ai participé, enfin voilà, je faisais des lectures avec lui pour qu'il puisse se rendre compte de son travail et tout ça. Et ensuite on a répété finalement assez peu parce que on a répété 15 jours avant la première, quoi, 15 jours 3 semaines.
Ah oui.
Oui, c'était assez rapide. Oui.
Mais pour autant il y a quand même une nouvelle version, quelle liberté vous aviez par rapport... Vous disiez, il y a un texte, mais il y a des ajouts que je ne dévoilerai pas. Quand même une mise en situation particulière. Il y avait cette liberté-là, dans le contrat?
En tout cas, il fallait qu'il fasse une mise en scène. Il pouvait refaire sa mise en scène, refaire la mise en scène de Katie Mitchell, ou se réapproprier dans le cahier des charges. Il n'était pas écrit qu'il fallait qu'il refasse exactement ce qu'avait fait Katie Mitchell. Ce que je trouve plus intéressant, bah, évidemment. Sûr. Il est lui-même metteur en scène formidable, auteur formidable, profitons-en. Et donc, du coup, là, il s'est complètement réapproprié l'exercice. Les libertés qu'il a prises ne sont que pour moi des libertés de metteur en scène, en fait, mais en tout cas il a complètement respecté le cahier des charges. Je suis moi-même donc issue, enfin une femme déjà, issue des
alors il faut pas être issu de la majorité visible,
voilà,
de son pays.
Je suis issue des minorités invisibles.
Peu visibles. Minorité visible.
Des minorités visibles.
Je sais pas comment il faut le dire à l'envers.
Voilà. Et donc tout ça est... Et on n'utilise pas d'électricité.
Non.
Et ben voilà.
Alors ça, on va y revenir. Mais j'ai dit que la comédienne Juliette Navis faisait rare. C'est une notion avec laquelle vous jouez dans ce spectacle, quand même aussi. Mais Qu'est-ce que ça fait de retrouver le plateau de cette façon-là ?
Eh ben, j'ai l'impression d'être l'arroseur arrosé, d'avoir un petit retour de bâton. Tu fais faire des solos à tes acteurs, et ben tiens, à ton tour, d'expérimenter ce grand vertige. Parce que, ben oui, c'en est un, quoi. D'être seul de bout en bout, à tenir le propos, le rythme, la pensée, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau que David me fait, et c'est formidable de pouvoir expérimenter ça dans son parcours, quoi, parce qu'on est seul à slalomer, et que ça je sais pas, ça met en péril, mais joyeusement, hein, je veux dire.
Alors, il faut souligner donc la conception scénographique signée David Jeffson et Jérémy Papin, avec une création lumière de Jérémy Papin qui est très importante, et le travail des ateliers de la MC 93 qui ont conçu des paraboles, qui sont des réceptacles de bougies qui vont éclairer le plateau. Vous allez vous saisir et les faire vivre peu à peu, vivre et mourir. Il faut signaler les costumes de Benjamin Moreau pour être complet, mais il y a, vous dites seul, mais pas tout à fait seul, il y a une présence sur le plateau, très importante, présence musicale, en l'occurrence avec une ou un violoncelliste, puisque c'est en alternance Jérémy Arcache, Gaspard Klaus et Myrtille Hetzel qui vous accompagnent. À quel moment est-ce que vous avez décidé justement de cette présence autre que la parole, celle de la musique?
Je pense que c'est une des libertés dont on parlait tout à l'heure que David a apprise, parce que dans le texte, enfin dans la mise en scène, enfin il y a de la musique, un chœur d'enfant, et je pense que le texte est c'est très simple, c'est très direct, on est vraiment dans c'est du jeu et du théâtre, mais dans le non-jeu du jeu, quoi. On est je dois
une sorte de conférence, si voilà. Raconter.
C'est ça. Et c'est super, mais c'est vrai que pour pouvoir permettre des petits soulèvements ou de la mise en relief, la présence d'un musicien à mes côtés, je pense est vraiment nécessaire, en tout cas elle est salvatrice, je pense, et c'est une idée qu'a eu David, hein. Après il avait déjà beaucoup travaillé avec Jérémy Arcache, je veux pas parler en son nom, mais j'imagine qu'il a un amour particulier pour le violoncelle ou la musique, mais enfin ça c'est la musique c'est sûr, mais le violoncelle en particulier, en tout cas il a décidé de voilà qu'il a fait cette proposition là qui moi immédiatement m'a semblé être un outil important pour ce spectacle.
Pierre, le fait que comme vous David Jason est comédien, auteur, metteur en scène, oui. Qu'est-ce que ça change dans sa façon de diriger selon vous ?
Ben alors moi je suis autrice.
Bah oui.
Oui. Alors après c'est pas le même genre. Enfin j'écris pas de la même manière. Alors on va dire.
Bah oui.
J'écris une dramaturgie, mais c'est vrai que j'écris pas des mots. Je cherche la liberté de l'acteur dans la façon qu'il aura de s'approprier la structure que je lui propose. Après il y a tout un travail évidemment de masque un peu de personnages très très forts qui partent d'eux, mais ce sont quand même des extras eux. Enfin ce sont je fais vraiment des personnages hauts en couleur, quoi, dans cette trilogie. Et c'est vrai que David ne travaille pas du tout à cet endroit-là. Le texte est très écrit. Même les E sont écrits. Enfin, il y a vraiment, donc on est vraiment dans une autre façon, mais qui est, je pense, le but est le même, c'est de trouver une liberté, c'est d'avoir d'intégrer tellement l'écriture que ça me permette de ne plus avoir à y penser quelque part. Je pense. Et lui, son travail sur le personnage, enfin, je pense qu'il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, il ne le dit pas comme ça. Je pense que c'est à l'opposé de moi. On a eu une discussion à ce sujet pendant les répétitions. Parce que je lui disais, mais tu voudrais pas quand même que je me décolle un peu de moi-même? Parce qu'en plus, je parle en mon nom, quoi. Je dis que je m'appelle Juliette. Et je m'appelle Juliette, donc.
Et que vous êtes comédienne et que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué.
Oui, c'est ça. Enfin, ça joue vraiment là-dessus.
Mais
ça joue vraiment.
On part quand même là-dessus.
On part quand même là-dessus.
On part de vous.
Voilà. Mais moi aussi, je pars de moi avec Céline. Mais sauf qu'elle arrive avec une perruque et un body. JC, il arrive avec son survêt et ses cheveux gominés. C'est pas Douglas, quoi. C'est pas l'or. Et en même temps, c'est eux. C'est complètement eux.
Mais on est dans un autre endroit de l'amusement. Je pense que vraiment, dans ma trilogie, j'ai envie qu'on s'amuse, ça c'est sûr, quoi. Même si on parle de sujets sérieux, pour moi, essentiels. Mais voilà, c'est et je pense que le travail de David sur le jeu est vraiment pas du tout, ne part pas du même endroit. Mais en même temps, je le comprends très bien. J'ai l'impression. Il y a quelque chose quand même que je reconnais. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec David. Et d'ailleurs, ça a commencé par... C'est moi qui l'ai mis en scène d'abord.
Ah oui.
Vous l'avez pas trouvé, ça, tu vois. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ouais, au festival un festival à Villeréal, justement. Il y a
quelques années.
Ouais. Mais en tout cas, oui, il y a... on est à l'opposé. Et en même temps, on se retrouve.
Alors moi, j'ai eu la chance, et je vous en remercie, parce que c'est pas évident de voir un filage du spectacle. C'était le premier filage, ai-je appris depuis. C'était avant la première. Donc, vous l'avez joué maintenant, ce spectacle, 4 fois.
Oui.
Comment vous sentez les réactions du public? Parce que bon, il y a ce thème très important qu'on évoque, de la survie ou non du vivant, quand même, oui, sur cette planète. Comment est-ce que vous sentez les réactions?
Ben, il y a, je pense, toujours une très belle écoute. Ça, c'est vraiment... Après... Moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui plongent avec moi, vraiment, et qui plongent dans l'émotion, parce que ben, je pense que c'est très sensible, quoi, forcément. Et en plus, comme il y a ce jeu très direct, il y a vraiment, c'est une discussion, quoi. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui, au contraire, quoi, vraiment, ne veulent pas aller. Moi, j'ai vu des gens qui baissait la tête pendant
qui résistait
le spectacle. Mais oui, et c'est hyper révélateur, ça raconte quelque chose.
Ils veulent pas l'entendre.
Ouais, ils veulent même pas me voir le dire, quoi. Et c'est bon, évidemment toujours très déstabilisant, mais en même temps je peux comprendre complètement. C'est tellement dur, tellement dur, tellement dur. Mais en tout cas, la proposition est de Miranda et de David, ben qui est de justement se parler. Continuer à se parler, à prendre soin. Elle est hyper belle et je pense que ça, oui, que moi je sens en fait, je sens, je pense qu'il y a des gens en larmes à la fin et des gens en colère. Et c'est bien, c'est beau.
C'est bien. Alors ça, c'est jusqu'au 7 avril sur la scène de la MC 93 à Bobigny, une pièce pour les vivantes et les vivants en temps d'extinction. David Jezelson, Cathy Mitchell, Miranda, Rose Hall, on espère, on imagine que cette pièce continuera sa vie, oui, celle-ci aussi, peut-être. En attendant, alors parce qu'il faut attendre l'automne 2026.
Pour Pedro, Pedro, hein. Ah non, mais la saison prochaine, on reprend JC et Céline.
Ben, j'espère bien.
On le reprend à la Commune.
Ouais.
À la Commune d'Aubervilliers, au CDN d'Aubervilliers, en mars. Et on le reprend, aussi les deux à l'espace 1789 de Saint-Ouen, en janvier et en mai.
Voilà de bonnes nouvelles.
Ah oui, on a une très belle tournée, je suis très contente, et cette belle reprise parisienne, on l'attend avec impatience.
Merci, Juliette Navis, d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Vanessa Paradis, Camélia Jordana, Jane Birkin, nombreuses sont ces artistes à être passées de la chanson au cinéma ou à l'inverse du cinéma à la chanson. Dorothée de Koun mène, elle aussi, une double vie entre musique et cinéma. Côté musique, si elle a déjà prêté sa voix au projet de Lescope, Nicolas Gaudin, Arnaud Florent Didier, Dodiel Cherbini et Cabane, c'est sur un album personnel qu'il sera bientôt possible de la découvrir. Elle vient d'ailleurs d'en diffuser un morceau, Les Kilomètres, dont le clip est réalisé par Yann Gassman à partir des images du film Les Paradis de Diane. Un choix loin d'être anodin puisque Dorothée de Koun y tient le rôle principal. Si le film, co-réalisé par Yann Gassman et Carmen Jacquet, est d'ores et déjà sorti en salle en Suisse romande, il faudra patienter encore un peu pour une sortie en France. En attendant de pouvoir découvrir les talents de sa comédienne sur grand écran, écoutons sa proposition musicale. Voici Les Kilomètres, notre son du jour.
Je suis tout près, je suis ta proie. Je te suivrai où tu voudras. Je suis toute prête et les kilomètres ne comptent pas, ne comptent pas.
C'était les kilomètres de Dorothée de Kuhn.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, mais où êtes-vous donc ?
Bonsoir Arnaud, ce soir commence une semaine spéciale dédiée à la résidence française à Kyoto, la villa Kujoyama. Alors, imaginez une ville japonaise de plus d'1 million d'habitants, à plus de 400 km de Tokyo, visitée par des touristes du monde entier pour ses temples et ses traditions préservées. Eh bien là, à flanc de colline, s'élève un havre de paix en béton pour les artistes français.
Je m'appelle Adèle Frémol, je suis directrice de la villa Kujoyama.
À Kyoto, où vous nous accueillez aujourd'hui, merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on commence la visite de cette villa, vous pourriez nous dire en deux mots quand est-ce qu'elle a été construite et à quoi elle sert ?
Alors, la villa Kujoyama a été inaugurée en 1992, donc il y a bientôt 32 ans. C'est une résidence d'artistes, pour artistes français de toutes disciplines, et elle accueille chaque année 15 lauréats pour des périodes de 4 à 6 mois qui viennent faire des recherches à Kyoto ou même dans d'autres endroits du Japon.
Et cette année, on fête les 10 ans. Alors, vous venez de nous dire qu'elle a 30 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement l'anniversaire que l'on célèbre cette année ?
Oui, alors on célèbre les 10 ans de l'introduction de la discipline métier d'art au sein de la villa Kujoyama. Donc, il y a 10 ans, suite à une période de travaux, la villa a réouvert Et au moment de sa réouverture, la Fondation Bettencourt soutient la Villa Kujoyama.
Fondation Bettencourt qui est notamment dédiée au métier d'art, justement.
Exactement, ils soutiennent différentes initiatives, notamment avec le prix Intelligence de la main.
C'est-à-dire qu'il y a des lauréats qui viennent pour des disciplines artistiques comme la littérature, la photographie ou autres, et vous avez certains lauréats spécialisés dans les métiers d'art.
Alors, on a, je crois, 17 ou 18 disciplines différentes. C'est-à-dire qu'on est vraiment très, très large. On accueille aussi la gastronomie, les jeux vidéo, en fait, toutes disciplines créatives. Mais c'est vrai qu'on a un petit focus métiers d'art, avec le soutien de la Fondation Bettencourt, mais aussi tout simplement parce qu'on se situe au Japon et qu'au Japon, les métiers d'art constituent une grande partie de toute la création. En fait, les résidences à la Villa Kujoyama ne sont pas des résidences de production, mais vraiment de recherche, d'exploration au Japon.
On vient d'arriver dans ce bâtiment qui est quand même très particulier. Alors, on est entouré de béton, de verre qui donne sur la nature environnante. Vous nous faites visiter ?
Oui, bien sûr.
Qui est l'architecte ?
L'architecte s'appelle Kuno Kato. C'est un architecte japonais qui était professeur de l'université de Kyoto, mais qui a longtemps habité en France. C'est la raison pour laquelle il a été choisi pour ce bâtiment, puisque ce bâtiment incarne ce que est la Villa Kujoyama, à savoir un lieu d'échange culturel franco-japonais.
Et on voit à chaque fois ces grandes vitres qui donnent... Alors j'imagine que c'est la ville de Kyoto derrière. Là, aujourd'hui, on ne voit pas bien ce qu'il y a un peu de brume.
Non, on ne voit pas bien, mais c'est totalement la ville de Kyoto. On a une très, très belle vue sur Kyoto. On est suffisamment en hauteur. Donc quand la brume disparaît, on peut voir notamment le palais impérial, un petit bout de la rivière Kamogawa et également les montagnes côté ouest.
Alors on voit la ville, mais pourtant on est entouré de nature autour de là. On est en hauteur, on est sur une colline.
Alors on a l'impression d'être assez exilé, d'être assez excentré. On est en fait à 15 minutes du centre-ville. Mais c'est vrai qu'on est dans un endroit qui est un petit peu en recul et qui permet aussi aux lauréats de choisir d'être soit très rapidement en centre-ville, soit d'être dans un grand calme pour pouvoir créer en toute tranquillité.
Encore, hein, des parois vitrées partout. Cette fois-ci, on voit le ciel, toujours cette verdure qui nous entoure, et le béton.
Et le béton, et les patios. Et là, donc, on est dans l'étage où on a les 6 studios logements des lauréats. 6 cubes comme ça qui sont en quinconce, qui sont tournés vers la montagne pour qu'ils soient vraiment orientés vers le calme, le silence. Ils ont chacun une terrasse. Et de l'autre côté, on a la grande terrasse de la villa.
Ah, magnifique. Bonjour.
Allez-y, je vous en prie. C'est le premier atelier que vous visitez. Hein.
C'est le premier. Vous allez nous faire la visite.
Ouais. Eh bien, alors on y va.
Donc, je m'appelle Lorraine Tortil. Je suis artiste sonore et en même temps visuelle.
Alors là, on vient de rentrer dans votre studio. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Alors, c'est un espace en mezzanine qui est principalement bétonné, avec au sol une surface à peu près de 40 mètres carrés. Puis donc là où nous sommes, c'est vraiment l'atelier à proprement parler, qui donne donc sur un extérieur qui est quand même plaisant.
Alors vous avez une grande baie vitrée, très haut de plafond.
Je peux imaginer que ça fasse 5 mètres de haut à peu près.
Ouais.
Et la baie vitrée en fait pas moins de 4,50 mètres. Donc c'est pas désagréable.
Alors vous êtes lauréate de la villa, depuis combien de temps et pour quel projet vous êtes là ?
Alors je suis arrivée en janvier, début janvier, pour 4 mois et demi. Et donc, le projet que je mène ici consiste à mener une enquête sur l'invention du Walkman dans les années 80 par l'entreprise japonaise Sony. Puisque en tant qu'artiste sonore, je m'intéresse actuellement à tout ce qui concerne l'écoute médiate, donc par le biais d'un médiateur, et notamment l'écoute individuelle contemporaine qui s'identifie dans les espaces publics.
Et pourquoi c'était important pour vous de venir ici à Kyoto pour travailler sur cette recherche-là ?
Ce qui m'intéressait dans ma recherche globalement, c'est que quand le Walkman a été inventé, c'est le moment où il y a une nouvelle perspective de la manière dont on pourrait définir l'écoute. Donc le Walkman a vraiment inventé l'écoute individuelle, mobile, dans l'espace public. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai eu une envie d'aller vraiment chercher des informations dans les archives de Sony, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir.
Qu'est-ce que ça change pour vous de travailler ici à la Villa, dans ce cadre-là ? Est-ce que ça a un impact sur votre travail au quotidien ?
Oui, complètement, dans le sens où je suis basée à Paris en tant qu'artiste, et que là... Clairement, le cadre qui nous entoure est quand même propice à la réflexion. Donc je pense que, vu que je vais quand même souvent à Tokyo, ça me permet de faire vraiment une sorte de va-et-vient entre Tokyo, où je suis en quête de matériaux.
Dans les fameuses archives dont
vous parlez. Voilà, dans des archives, mais pas que Sony. Je vais aussi chercher beaucoup de vieux documents, des vieilles revues des années 80, pour trouver des publicités. Enfin, donc je suis beaucoup sur le terrain. Et quand je reviens à Kyoto, c'est vraiment l'étape d'écriture. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez idyllique.
Bonjour, je suis Dominique González-Forster.
Et vous étiez une ancienne lauréate de la Villa Kuyama en 97, je crois. Quels sont vos souvenirs de ce moment-là ?
Alors, j'avais eu la chance de connaître le Japon déjà dans les années 80, en fait. Donc pour moi, c'était plus un séjour, on va dire, de confirmation, quoi, de ce désir que j'avais à l'époque aussi vraiment de vivre à Kyoto. Et c'était la possibilité, en fait, de faire un long séjour, de pouvoir vivre à Kyoto et pouvoir penser dans ces espaces et puis les arpenter à fond.
Est-ce que vous pourriez nous dire, dans une vie d'artiste comme la vôtre, quelle place ça a, ces résidences ? Vous parliez du temps passé, mais est-ce que c'est important aussi de prendre un temps de recherche, un pas de côté ? Les résidents prennent plein de mots différents pour dire, mais un temps de résidence, c'est quoi dans une vie d'artiste ?
Moi, je dirais, ce qui est très beau, c'est le décalage, quoi, comme ça, et d'être vraiment dans un autre monde. Après, ouais, le Japon, dès les années 80, c'était vraiment mon premier amour extérieur, comme ça, tout ce que j'ai vu ici, c'est devenu une partie de mon œuvre. Donc en fait, je pense qu'une résidence, c'est ce qui permet d'approfondir des intuitions. C'est ça, en fait. Parfois, on suit une intuition et ce qu'on va trouver, c'est pas forcément, mais en fait, c'est ça.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sambi, avec quel programme ?
Demain, Arnaud, je serai toujours à Kyoto pour notamment une démonstration de Kyudo, ce tir à l'arc japonais, avec le circassien lauréat de la Villa Kujoyama, Tirak Arivel.
Merci Marie Sambi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.